Morning Edition from NPR News.
MCT Sandinger House.
Halim Radio Rosana Piperis.
Produce ghetto en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Comment sortir de la guerre, pas seulement la guerre en Ukraine, comment on sort d'une guerre au 21e siècle, comment on passe de l'état de guerre à l'état de paix, la complexité de ces périodes de transition, la nouvelle construction politique qui suit, le livre que j'ai sous les yeux va des guerres de religion jusqu'à nos conflits asymétriques et je vous promets que c'est passionnant. Et justement, tiens, la fin de la guerre Israël-Gaza, ben on n'y est pas, en passant par le Liban. C'est le monde à l'endroit de Louise Baudet. Le reportage ce soir est en Inde avec une bonne nouvelle, l'état du Kerala annonce la fin de l'extrême pauvreté, mais est-ce que c'est si sûr?
J'ai 60 ans. Je travaille dans des toilettes publiques et je gagne plus de 3 euros. Vraiment, ça a changé ma vie.
Un reportage signé comme Bastin à découvrir autour de 18h42 sous les radars. Guillaume Audat a trouvé le doge d'Elon Musk qui a disparu en toute discrétion. Et dans la BO du Monde, Cyril Sauvageau a mis Maduro qui danse ou comment le Venezuela met en musique sa relation aux États-Unis. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. On y va.
Au centre de la Galerie des Glaces, sur cette table, va être posé le traité. Les Allemands arrivent à 15h. Ils n'auront que quelques minutes pour signer.
On a fait exprès, bien sûr, de sortir des archives la fin d'une autre guerre, pas celle qui nous occupe, celle qui a entamé le XXe siècle. C'est un extrait de Apocalypse, la paix impossible, 1918-1926. Et d'ailleurs, impossible, ça nous intéresse. Bonsoir, Guillaume Piketty.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur du Centre d'Histoire de Sciences Po, spécialiste des phénomènes guerriers. Je le disais, vous nous emmenez dans cet ouvrage qui est un ouvrage collectif des guerres de religion jusqu'aux conflits asymétriques. Ça s'appelle « Sortir de la guerre » chez Passé Composé. Alors, on ne va pas remonter aussi loin que les guerres de religion. Quoique d'ailleurs, ce que j'ai trouvé assez frappant, c'est qu'il y a quand même le même fil qui relie des guerres depuis les premières que vous évoquez jusqu'à celles d'aujourd'hui. Et il y a même plusieurs fils, on sort avec les mêmes questions et ces questions peuvent même trouver un chemin sur la guerre en Ukraine d'aujourd'hui. Les transitions du fait d'état de guerre à l'état de paix, le retour des soldats, le refaire société. Il y a des choses qu'on parle d'un siècle passé ou du siècle prochain qui disent exactement la même chose. Guillaume Piketty, c'est assez frappant.
Oui, en fait, ce que nous avons voulu faire, c'est tester, voir si cette grille d'analyse que vous avez brièvement évoquée, qui a été composée par les historiennes et les historiens de la Première Guerre mondiale, pouvait fonctionner en remontant effectivement jusqu'aux conflits, jusqu'aux guerres de religion au XVIe siècle en Europe. Et ce que l'on constate, c'est que bien sûr, il y a quelques différences, mais que le gros de la grille fonctionne. Ça, c'est le premier point. Et le second point, en écho à ce que vous venez de dire, c'est que par ailleurs, par le truchement des mémoires, individuelles, mais aussi des mémoires de groupe, et puis des mémoires de l'environnement. Certaines guerres vont avoir des échos à des siècles de distance dans des guerres ultérieures.
J'ai trouvé ça frappant, il y a un chapitre au tout début qui s'appelle « Vivre avec les hérétiques », on est donc dans les guerres de religion, mais on peut tellement le transposer, on peut l'emmener en Bosnie, on peut l'emmener au Kosovo, on peut l'emmener en Syrie aujourd'hui, s'agissant des anciens bourreaux, on peut l'emmener dans tous les heurts confessionnels aujourd'hui qui frappent chaque fin de conflit. Et c'est même peut-être le lien et le chapitre le plus frappant qui traverse les guerres du XIVe siècle à aujourd'hui, le vivre avec les hérétiques.
Oui, parce que sous-jacent, il y a une violence terrible. Puisque l'hérétique est quelqu'un ou quelqu'une à qui on peut infliger toutes les violences
possibles et imaginables,
ce que l'on fait au travers des siècles, effectivement. Ouais. Et donc, évidemment, ces terreurs, ces épouvantables moments traversent les siècles et on les retrouve encore aujourd'hui, comme vous venez de le dire, oui.
Ce qu'on retrouve aujourd'hui également, c'est que de chaque guerre sort une nouvelle construction politique, en fait, ou quasiment. Et je me demandais si, au fond, c'était pas de cette nouvelle construction politique que sortait de toute façon systématiquement la guerre d'après, pardon. On voit dans la Première Guerre mondiale avec le traité de Versailles, c'est aussi pour ça qu'on a donné d'ailleurs cet exemple-là. Est-ce que c'est une constante que d'une construction politique sorte une autre guerre? Et là aussi, ça nous parle sur ce qui se passe aujourd'hui, parce que on va sortir de cette guerre, je ne sais pas comment. Mais sur une autre construction politique, probablement.
Alors là, je pense que vous faites allusion à la première étape de ce que l'historien John Horne a appelé la démobilisation culturelle, c'est-à-dire créer un avenir à la hauteur du sacrifice consenti, mais aussi s'organiser pour qu'il n'y ait plus de guerre. Et il arrive que cette organisation fonctionne.
Mais aussi, par exemple, pardon de vous interrompre, on crée des découpages artificiels. Ces découpages artificiels créent d'autres minorités dans des États qui sont nouvellement constitués. Et c'est aussi tout ça qui est le ferment de la prochaine guerre.
Sauf si les anciens belligérants sont d'accord, se mettent vraiment d'accord pour construire quelque chose ensemble pour déconstruire la figure de l'ennemi, cesser de s'entretuer et se considérer à nouveau comme des êtres humains. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Après la Seconde Guerre mondiale, malgré tout, un certain nombre de succès ont été obtenus.
C'est ce que j'allais vous dire. Ça marche entre les Allemands et nous après la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne marche pas entre les Allemands et nous après la Première Guerre mondiale. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire ça de conflits du XXIe siècle, comme ça, sur notre mémoire? Est-ce qu'on peut dire, voilà ce qui a réussi? Je pense aux guerres en Yougoslavie dans les années 90, on coche la case non, honnêtement, en tout cas pas
on est prudent, ouais, on est prudent pour conclure.
Exactement,
oui.
Exactement, on est prudent pour conclure, on est tellement prudent pour conclure dans tout le Moyen-Orient.
Ah bah bien sûr.
Bah, donc je cherchais en fait le bon exemple qui pouvait ressembler au nôtre et je ne l'ai pas trouvé.
Alors je vais faire une réponse un peu spécieuse, moi je savais je suis historien et donc il me faut un peu de recul. Et peut-être que pour ces conflits du début du XXIe siècle, nous manquons terriblement de recul, oui.
Il y a autre chose qui m'a frappé, et vous dites que ça part d'ailleurs du fameux traité de Versailles, c'est le point clé qu'on a repris derrière, en fait, à chaque fois qu'on a fait la paix, c'est la fameuse clause de culpabilité. Donc il faut faire payer les vaincus. Ça peut être payé avec de l'argent sonnant et trébuchant, ça peut être aussi des procès qui ont été faits. Le premier d'entre eux, je pense à Nuremberg par exemple, post-Deuxième Guerre mondiale et pas effectivement Première Guerre mondiale. Ce que j'ai trouvé absolument fascinant, si on regarde le conflit qui nous occupe, Ukraine-Russie en ce moment, dans les premières clauses de la première version ce week-end, il y avait une clause d'immunité pour les Russes. Quelque chose qui disait, attention, on ne sera coupable de rien. Est-ce que c'est ça aussi la bascule du XXIe siècle? Est-ce que ça, on le retrouve dans les conflits d'aujourd'hui ou pas?
On retrouve cette dimension de justice, enfin judiciaire, on va dire, où l'idée de savoir qui sont les coupables et de les faire payer d'une façon ou d'une autre, on le retrouve dans énormément de conflits. Ce qui a été nouveau au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est la création de cette justice internationale. Absolument. C'est-à-dire des normes internationales peuvent s'appliquer au niveau national. Mmh. Bon. Et bien sûr qu'on le retrouve depuis.
Qui a perduré après, il y a eu les TPI, il y a eu tout
absolument.
Ça. Et puis il y a cette clause quand même qui dit attention, nous ce sera non. Qu'est-ce que ça dit d'un virage, ça, à votre avis? Ça parle d'un virage ou pas? Ou ça parle juste de ce conflit précisément?
Je pense que ça parle de la prise de conscience par certains, on va les appeler dictateurs ou équivalents, ou patrons de régimes autoritaires, du risque qu'ils encourent s'ils ne prennent pas un certain nombre de précautions. Mmh. Il suffit de voir ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie. Un certain nombre de leaders ont effectivement connu la justice et la prison.
Le dernier chapitre, c'est le neuvième chapitre, s'appelle « Les guerres sans fin ». Est-ce qu'on peut en effet, Guillaume Piketty, gagner une guerre aujourd'hui, depuis 1945? Est-ce qu'on peut même dire « cette guerre-là, dont l'histoire a été gagnée depuis 1945 ?»
Difficile à dire, mais je pense que ce chapitre, enfin cette expression « les guerres sans fin » fait allusion à deux choses. La première, c'est celle que vous avez évoquée. Est-il possible de désigner des vainqueurs, des vaincus? C'est vrai que depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est franchement compliqué de décider voilà tel ou tel camp a gagné complètement par rapport à tel ou tel autre. Mais la seconde dimension qui est évoquée par cette expression, utilisée dans le 9e chapitre notamment, concerne la rémanence, la présence de la guerre dans les esprits, dans les individus. Et là, ce que nous constatons en considérant chacune de ces 9 sorties de guerre, c'est que le conflit reste présent dans les mémoires des uns, des autres, pendant des décennies, pendant des siècles le cas échéant, et quelquefois ranimé par un conflit très lointain, très postérieur, vous voyez. Un exemple, en France, au début de la Seconde Guerre mondiale, après la grande catastrophe, dans le sud de la France notamment, un certain nombre de personnes se sont engagées en mémoire de ce qu'avaient fait leurs anciens pendant les guerres de religion. Je ne sais pas si vous imaginez, mais là, ce sont plusieurs siècles qui jouent. Et donc, cette sortie de guerre individuelle peut être infinie.
Il y a un camembert dans votre livre qui m'a frappé, mode de cessation des hostilités entre 46 et 2021. 30% par une victoire, 13% par un accord de paix, 40% basse intensité.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de zone entre gris clair et gris foncé, en quelque sorte.
Il n'y a plus assez de pertes pour considérer que c'est un conflit ouvert. Mais néanmoins, le conflit est un conflit entre guillemets à bas bruit. Je mets beaucoup de guillemets parce que ce bas bruit veut dire des morts, des blessures, des souffrances parfois terribles.
Ce que ça veut dire aussi, et c'est encore une fois ce qu'on voit avec la guerre en Ukraine, c'est que, et vous le soulignez d'ailleurs, c'est que on se retrouve aussi dans un monde où les grandes puissances sont devenues d'énormes puissances. Donc les règlements, en fait, se font aussi indépendamment de ceux qui se font la guerre le plus souvent. C'est bien ce qui est en train de se passer ici. D'ailleurs, à la fin, ça va se régler avec les Américains, par exemple. Ça va se régler avec une partie de l'Europe aussi. Est-ce que ça joue ça, le fait que les grandes puissances soient devenues ceux qui règlent les conflits? Je pense à ce qui s'est passé en Yougoslavie de la même manière, etc. Et c'est peut-être ce qui laisse aussi ce gris clair et gris foncé.
Alors, sur la question en Ukraine et sur ces tentatives de paix, honnêtement, Moi, je suis extrêmement sceptique. C'est-à-dire, ils peuvent décider tout ce qu'ils veulent. Sur le terrain, ce sera différent. Si aujourd'hui, vous allez en Ukraine, vous verrez que dans toutes les villes, il y a des cimetières avec des photos des morts, avec des traces, avec des témoignages, des hommages, etc. Et vous croyez que la population acceptera n'importe quoi? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, c'est bien beau de décider de tout en haut et d'essayer de faire descendre ces décisions prises par des gens complètement déconnectés. C'est une chose. Concrètement, sur le terrain, les choses vont être bien sûr très différentes et beaucoup plus longues.
D'ailleurs, c'est intéressant, vous dites que c'est le 21e siècle qui invente le processus de paix. C'est-à-dire qu'on ne va pas directement vers la paix, mais il y a tout ce cheminement qui nous enverra, on ne sait pas très bien où d'ailleurs, mais il y a en tout cas cette espèce d'entre-deux qui est aussi une invention des guerres du 21e siècle, le processus de paix.
Oui. Absolument. Mais, et c'est pour ça que ces décisions peuvent être prises. La chose qui va vraiment compter, c'est ce qu'elles vont déclencher comme processus. Est-ce que ça ira vers la paix, vers une guerre à bas bruit, ou tout d'un coup vers une reprise de la violence, ça?
Est-ce que vous avez le sentiment que cette guerre en Ukraine fait partie justement de ces conflits gelés un jour, mais jamais finis, d'une certaine façon, si on regarde vraiment les choses? Ça dure depuis plus de 10 ans, cette guerre désormais. Est-ce qu'on est vraiment dans l'archétype d'une guerre qui n'arrive pas à finir et qui n'arrivera pas à finir, qui sera peut-être gelée un jour et pas plus?
Oui, tant que du côté russe au moins, il y a des gens au pouvoir qui considèrent que cette guerre est existentielle, à la fois pour leur pays et aussi pour eux-mêmes.
Il y a cette phrase qui était très frappante hier. Alors, on est dans cet entre-deux. Vous vous souvenez, ce week-end a été assez bizarre. À la fois un plan d'abord très contraire à l'Ukraine, et puis finalement, les choses qui bougent comme c'est le cas, hélas, depuis un bon bout de temps. Mais il y a cette phrase de Zelensky à son peuple, et il dit: il faut choisir entre la dignité et un allié. Qu'est-ce que ça nous dit d'une guerre du 21e siècle, cette phrase de Volodymyr Zelensky, à votre avis?
Ça nous dit que rien n'a changé depuis la fin des années 1930, par exemple. C'est-à-dire que cette décision a été prise, qui a consisté à sacrifier, en l'occurrence, la Tchécoslovaquie, pour essayer de sauver la paix. Et au bout du compte, on a eu la guerre, la Seconde Guerre mondiale, enfin l'épouvante absolue. Donc ça veut dire que rien n'a changé, oui. Mais Zelensky a évidemment raison. C'est la dignité qu'il faut choisir.
Donc la dignité choisir, ça veut dire que...
Ça veut dire qu'il faut continuer à se battre.
Alors, est-ce que ça, c'est comme ça que vous l'avez interprété?
Depuis le studio, hein, mais
quand comment il dit, il faut choisir entre la dignité et un allié, ça veut dire, à votre avis, qu'il préfère la dignité à un allié, parce que l'allié, en sous-entendu, ce sont les États-Unis.
Oui. Est-ce que les États-Unis aujourd'hui sont vraiment les alliés de l'Ukraine? C'est une question. Vraisemblablement pas.
Donc, on peut prendre le risque de s'aliéner pour garder notre dignité, s'aliéner les États-Unis, c'est ce qu'il dit là, Volodymyr Zelensky.
Oui.
Est-ce que ce qui vous frappe pas aussi, ce sera la dernière question, Guillaume Pecchetti, c'est à quel point cette guerre-là, puisqu'on a commencé avec la Première Guerre mondiale avec l'extrait, ressemble en fait à une guerre du début du XXe siècle et pas à une guerre du milieu du XXIe siècle. À la fois, c'est une guerre de drones, c'est une guerre très technologique, c'est aussi une guerre de tranchées.
De position.
Et de position. Qu'est-ce qui fait au XXIe siècle, à votre avis, qu'on peut déclencher une guerre qui devient une guerre de tranchées et pas seulement une espèce de guerre technologique comme on les avait beaucoup vues au début des années 90.
Vous savez, la guerre à la fin, ce sont des hommes qui prennent des fusils, des hommes et des femmes maintenant, qui montent dans des engins plus ou moins blindés, plus ou moins protégés, et qui vont s'entretuer. Et donc, on revient à ces basiques, c'est-à-dire à ces fondamentaux de la guerre. Et ce qu'il faut aussi, c'est un tyran qui décide d'y aller coûte que coûte, et qui n'écoute rien, et qui suit ses rêves ou ses fantasmes au prix de la vie de beaucoup de gens.
Voilà, on les a, ces ingrédients, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça s'appelle « Sortir de la guerre », dirigé par Guillaume Pecchetti, « Des guerres de religion jusqu'au conflit asymétrique », et c'est publié chez Passé Composé, ministère des Armées. Je vous remercie beaucoup.
Merci.
De votre passage chez nous. La suite, ce soir, c'est Le Monde à l'endroit, et c'est vous, Louise Baudet.
D'un plan de paix américain à un autre, je vous reparle ce soir du Proche-Orient et d'un cessez-le-feu qui est de plus en plus théorique au Liban.
Juste après Jimmy Cliff, quand même, c'est l'hommage d'un jour dans le monde. La chanson s'appelle Vietnam, et pour Bob Dylan, figurez-vous que c'était la chanson la plus efficace. On y est encore contre la guerre du Vietnam, ça date de 1969.
Yeah.
Jimmy Cliff, Vietnam. Ça date donc de 69 sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à l'endroit, c'est Louise Baudet.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Et on y retourne, si j'ose dire. Pourquoi, Louise, au Liban et d'ailleurs ailleurs, au Proche-Orient, la notion de cessez-le-feu est précaire, voire purement théorique?
Ouais, bientôt un an de cessez-le-feu au Liban, paraît-il. La date sera célébrée dans 3 jours, anniversaire d'une trêve signée par Israël et le Hezbollah, le mouvement chiite pro-iranien durablement affaibli par la spectaculaire attaque des beepers, rappelez-vous, et la mort de son chef, Hassan Nasrallah. Mouvement décapité alors, mais loin d'être éradiqué. Le Hezbollah se réarme, affirme Israël, qui dicte seul les termes de ce cessez-le-feu et frappe quand il estime que sa sécurité est menacée. Nouveau seuil franchi hier avec l'assassinat du chef militaire du Hezbollah dans un bombardement ciblé de la banlieue sud de Beyrouth. Frapper la capitale n'est donc plus une île rouge pour Israël, qui a intensifié ces dernières semaines ses attaques aériennes et ses raids terrestres dans le sud du pays, où les casques bleus de la FINUL ont essuyé des tirs la semaine dernière.
C'est donc le signe que le retour de la guerre est inéluctable au Liban?
Oui, tant une question semble insoluble, celle du désarmement du Hezbollah. Selon l'accord de cessez-le-feu signé l'an dernier, l'armée libanaise doit obtenir ce désarmement d'abord dans la région du Sud-Liban, proche d'Israël, avec comme date butoir la fin de l'année, puis dans le reste du pays, ce que le Hezbollah refuse. L'armée libanaise assure que le processus est en cours, mais Israël et les États-Unis estiment que cela ne va pas assez vite, et le gouvernement libanais a face à lui un choix impossible, risquer une nouvelle guerre civile en forçant le désarmement rapide du Hezbollah ou provoquer un nouveau conflit avec Israël.
Israël qui maintient la pression sur tous les fronts.
Oui, les fameux 7 fronts sur lesquels l'État hébreu se dit en guerre, guerre ouverte ou paix armée. Le gouvernement israélien maintient une présence militaire dans la Syrie voisine en violation du droit international. Benjamin Netanyahou était d'ailleurs sur place la semaine dernière, accompagné de plusieurs ministres et de sa haute hiérarchie militaire. Autre front, en Cisjordanie, où les attaques des colons juifs, mais aussi les raids de l'armée régulière se multiplient, avec des arrestations de centaines de Palestiniens. Et puis il y a Gaza, bien sûr, 1 mois et demi après le début d'un autre cessez-le-feu, régulièrement rompu lui aussi par des frappes en riposte à des attaques attribuées au Hamas. Sur le plan sécuritaire comme humanitaire, la situation dans l'enclave reste extrêmement précaire.
Et ça montre les limites du plan de paix américain pour Gaza.
Oui, au-delà du cessez-le-feu qui limite, c'est vrai, le nombre de victimes et donne un peu de répit aux populations civiles. Ce plan compte pour l'heure beaucoup d'angles morts, trop pour tracer un chemin de paix solide. Et si la semaine dernière, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la phase 2 de ce plan, on est loin de la fin d'un cauchemar de 3000 ans annoncé par Donald Trump. Fidèle à son style, le président américain entrevoit l'aube d'un âge d'or et l'avènement d'une paix éternelle dans la région. Pour l'heure, Gaza semble surtout en voie de libanisation.
Merci beaucoup, Louise Baudet, le reportage. Le reportage d'Un jour dans le monde qui est en Inde et cette annonce de l'État du Kerala qui affirme « Nous en avons fini avec l'extrême pauvreté ». C'est une première dans un État indien que nos images d'Épinal et une réalité statistique aussi associent évidemment à des scènes de misère. Le Kerala est un État communiste avec de fortes politiques publiques dans la santé, dans l'éducation, mais sur place, certains jugent quand même que l'annonce de la fin de la pauvreté, la très grande pauvreté, est précipitée. Le reste, c'est Combastin qui raconte.
La maison de Rajan et Jaya au carrelage impeccable, a été inauguré il y a moins d'une semaine.
Une centaine de proches sont venus pour l'inauguration. Je n'aurais jamais imaginé ça il y a peu.
Le couple qui habite la région montagneuse et tropicale de Wayanad, dans le Kerala, revient de loin.
J'étais conducteur de mototaxi. Mais durant le Covid, j'ai eu un grave accident. Je suis resté en chaise roulante. Ma femme et mes 2 enfants étaient soudain privés de revenus. On survivait dans une cabane sans espoir. Heureusement, le gouvernement est venu nous aider.
Grâce au programme d'éradication de la pauvreté, Rajan et Jayanti achètent une mini-échoppe, puis reçoivent un apport pour construire leur maison. Aujourd'hui, le couple relève la tête, comme beaucoup, explique un élu local.
Dans le district, nous avons identifié 118 familles comme extrêmement pauvres. Avec notre aide, 22 ont pu construire une maison, 6 ont eu des terres à cultiver, 43 ont bénéficié d'aide alimentaire et 14 ont pu trouver un boulot.
Sarojini, une femme isolée, en a aussi bénéficié.
J'ai 60 ans et je travaillais dans l'agriculture. Je gagnais un peu plus d'un euro par jour. Maintenant, je travaille dans des toilettes publiques et je gagne plus de 3 euros. Vraiment, ça a changé ma vie.
Le plan de lutte contre la pauvreté du Kerala, encore aujourd'hui dirigé par le Parti communiste, remonte à 1997. En ce mois de novembre, le dirigeant de cet État du Sud affirme qu'il a atteint cet objectif fondamental.
Il y a 50 ans, les chercheurs nous classaient parmi les États les plus défavorisés de l'Inde. Aujourd'hui, j'annonce avec solennité devant cette assemblée que plus personne ne fait face à une pauvreté extrême au Kerala.
Mais comment définir la pauvreté extrême ? Si la Banque mondiale se base sur le salaire quotidien, le Kerala mélange critères économiques, sanitaires et alimentaires. L'économiste Pierre Kanan déplore un manque de transparence.
Le Kerala avance, c'est indéniable. Mais avant d'affirmer que la pauvreté a disparu, le gouvernement doit publier ses données, sa méthodologie, les experts qui ont encadré ces statistiques.
Moi, j'ai 4 enfants, mais ils ne s'occupent plus de moi. Je survis avec une pension de 20 euros par mois et de l'aide alimentaire. Le gouvernement ne veut pas m'accorder plus. Alors non, la pauvreté n'a pas disparu.
Nusrat, une élue de l'opposition à Wayanad, nous a emmené rencontrer des habitants ignorés par les programmes du gouvernement.
Il y a des gens qui, parce qu'ils sont trop isolés, échappent encore aux aides gouvernementales. Si nous, dans l'opposition, validons que la pauvreté a disparu, les budgets vont disparaître, alors qu'ils en ont encore grand besoin.
Pour l'instant, le gouvernement du Kerala n'a pas clairement répondu aux experts et opposants qui jugent qu'il crie victoire trop rapidement.
Comme Bastin pour le reportage en Inde. Merci beaucoup. La suite, c'est ce que Guillaume Oda a déniché sous les radars.
Sous les radars, un Ukrainien réfugié qui parle japonais comme vous et moi français, champion de sumo au pays du soleil levant.
Et la BO du monde, Cyril Sauvageau.
Au Venezuela, où danser quelques pas de salsa est toujours un moyen pour Nicolas Maduro de faire oublier ses problèmes.
Allez, ne bougez pas les amis, le tour de la planète continue. Il fait une escale à Londres avec les Pupini Sisters, cette étonnante entreprise de Blondie. Elle pratique ce qu'on appelle, figurez-vous, la close harmony. Donc c'est une technique de chant des années 40, comme les Pointer Sisters, par exemple. Je parle sous votre contrôle, hein, Cyril. Ouais, la ça. Reprise, c'est Heart of Glass. Pam, 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 pam. Pam 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 ba da pa pam 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 ba da pa pam pa pa da pa da 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 pa pa da pam 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 ba da pa pam 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 ba da pa pam 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 ba da pa pam. Once I had love and it was a guess. Do we do ba do do do? Soon turned out had a heart of glass. Do we do? Seemed like the real thing only to find much of mistrust. Love's gone behind. Once I had love and it was divine. Ba-doom dip, ba-doom dee da. Soon turned out I was losing my mind. Dwee-doo, dwee-doo. Seemed like the real thing, but I was so blind. Much of mistrust. Love's gone behind. Bum, 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 ba-dum, bum, ba. In between, what I find is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no if I fear I'm losing you, it's just no good. You teasing me like you do. Bum 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 bum. Once I had love and it was a guess. Soon turned out that he had a heart of glass. Seemed like the real thing. Lost inside, adorable illusion, and I cannot hide. I'm the one you're using, please don't push me aside. We could have made it cruising, yeah. La reprise un peu Betty Boop des Pumpini Sisters de Heart of Glass, ça date de 2006 ma foi, c'est intéressant. Sous les radars il y a Guillaume Auda, il en ressort avec l'info internationale qui vous a échappé.
U.S. President Donald Trump's Department of Government Efficiency, or DOGE, doesn't exist anymore.
Voilà, on s'en souvient de ça, hein. Votre argent est gaspillé, le DOGE va régler tout ça. Elon Musk y a cru dur comme fer. Un an plus tard, son DOGE est enterré aux États-Unis, Guillaume, et en catimini en plus.
Et avec l'eau du bain, si je puis dire, un autre concept aura fait long feu, c'est celui de First Buddy, premier pote des États-Unis, le pote au président, son poteau à lui, à Trump, on s'en souvient. Elon Musk, évidemment, le tempétueux milliardaire chargé des coupes sombres dans les dépenses budgétaires, non pas au sabre clair, mais à la tronçonneuse, un certain Milei, Javier, la lui avait offerte. Il s'en est servi, ou l'a-t-il cru, de sa tronçonneuse à la tête du Dodge, le département de l'efficacité gouvernementale, créé rien que pour lui, vitrine tonitruante de la rupture façon Trump, sur fond de coupes massives et de descentes spectaculaires dans les agences fédérales. La promesse, rendre 200 milliards de dollars aux contribuables américains, sauf qu'entre les démissions en cascade, l'absence de bilan public et cherry on the pie, la brouille XXL de Trump et Musk, l'expérience a viré au fiasco à tel point que le Dodge, sous les radars, sans crier gare, a mis clé sous la porte.
The AI-generated artworks were easily created by the ABC.
En Australie, l'intelligence artificielle s'attaque à l'art aborigène qu'elle pille, qu'elle reproduit et qu'elle met en vente sur Internet.
À des prix ridicules, des copies d'œuvres d'art vendues à peine 3 euros en ligne, des créations artificielles qui contournent assez sournoisement, il faut le dire, la propriété intellectuelle, puisqu'elles sont générées, entre guillemets, à la manière d'eux, tel ou tel artiste. Alors, on sait bien que le droit d'auteur et les IA, cela entraîne un bouleversement mondial qui bouscule les métiers de l'art en général. Mais en Australie, cela impacte plus directement encore les communautés autochtones. Des siècles de productions artistiques qui sont aspirées par les machines, digérées et puis recrachées, réduites à un seul et même style, sans tenir compte des représentations symboliques, voire même du sacré. Or, ce qui fait le sel d'une œuvre, ce n'est pas seulement son aspect esthétique, c'est aussi ce qu'elle raconte d'un homme ou d'une femme, d'un peuple ou d'une culture. C'est le bruit du monde en quelque sorte, et ça évidemment les IA sont incapables de le figurer. Certains artistes aborigènes parlent aujourd'hui de seconde colonisation, le mot est fort, mais il traduit un sentiment de dépossession technologique tout autant que d'essentialisation, réduisant l'art aborigène, pardonnez-moi, de seuls éléments de décoration. Triste tropique.
Au Japon, c'est un Ukrainien qui crée la sensation. Il vient de remporter pour son pays le premier titre de l'histoire de son pays en sumo.
Voilà, et il parade donc pour son pays.
Pour son pays donc.
Voilà, en kimono traditionnel, c'est de ma faute, pardonnez-moi.
Pour son pays.
Ce lancement pour son pays. Donc il parade, ce monsieur en kimono traditionnel, chignon impeccable, au sortir de la compétition à Kyushu, une île au sud-ouest de l'archipel Nippon, connue pour ses volcans. Et il a été volcanique en finale d'Anilo Yavuzishin, 21 ans, 1,82, 140 kilos. C'était un beau bébé, réfugié de guerre. Il a fui l'Ukraine après l'invasion russe en 2022, avant de rejoindre le Japon pour y pratiquer son art martial, tout en ayant franchi les étapes, dit-on, à une vitesse record. Et il est devenu là-bas Aonishiki Arata. C'est le nom de lutteur qu'on lui a donné. Et il est depuis une véritable star au pays du soleil levant. Il devient en effet le premier Ukrainien à remporter un tournoi de l'élite en sumo. Il pourrait être fait Ozeki, il y a beaucoup d'acronymes et de noms japonais. C'est un quasi-titre de noblesse dans ce sport accordé à de rares combattants. Et il est de cela, cet homme ukrainien, un symbole de courage et de résilience, à la fois pour lui-même et pour son pays.
Et donc, merci pour son pays. Merci beaucoup, Guillaume Auda. Vous reviendrez demain. Cyril Sauvageau, c'est à vous avec la musique que fait la planète en tournant. C'est la BO du monde.
France Inter, le 18-20.
Au Venezuela, Cyril, ce soir, où la pression sur le régime Maduro se fait de plus en plus forte face à la menace d'une intervention militaire américaine contre Caracas, le président vénézuélien se veut rassurant et comme souvent dans les périodes de crise, il se met à danser en public.
Et oui, la scène se déroule devant le palais présidentiel de Miraflores vendredi dernier. Un discours de Nicolas Maduro en forme de défi adressé à Donald Trump. Les menaces américaines ne nous arrêteront pas. Le Venezuela veut la paix. dit-il à un parterre d'étudiants acquis à sa cause. Et le vendredi soir au Venezuela, dit-il, c'est la fête, la rumba totale. Et Nicolas Maduro joint le geste à la parole. On le voit ici se déhancher sur un remix de ses propres discours. Et oui. Et puis ensuite, avec son épouse, il se met à esquisser quelques pas de salsa. Les sympathisants du dirigeant de gauche ne sont pas surpris. Maduro est coutumier du fait. À chaque fois qu'il en a l'occasion, il danse devant les caméras.
Con la juventud de la República Bolivariana de Venezuela.
En meeting, en campagne électorale, à la télévision, partout où il peut danser, Nicolas Maduro ne se prive pas. On le voit même ici s'installer aux percussions et se lancer dans un concert improvisé. C'était il y a quelques années, alors que son régime était déjà au plus mal au moment de l'autoproclamation de l'opposant Juan Guaido comme président du Venezuela.
Et on remarquera d'ailleurs, Cyril, que danser est souvent pour lui un moyen de faire diversion.
Ben oui, quoi de mieux qu'un peu de salsa pour afficher sa décontraction en public, alors qu'on le dit menacé, affaibli, Maduro démontre ainsi que tout va pour le mieux, qu'il garde la pêche, le sourire et que surtout, il ne fait qu'un avec son peuple et notamment les classes populaires qui constituent le cœur de son électorat.
13 minutes, 30 secondes exactement en la hora de la salsa. Estamos hoy en un programa muy especial. Va a ser el programa de cierre de la hora de la salsa lunes 26 de diciembre. Hoy se lo estamos dedicando a los clubs.
Voilà, Nicolas Maduro dans la peau d'un animateur radio aux manettes d'une émission musicale, la Hora de la Salsa, c'était en 2016. À l'époque, le Venezuela nage en plein marasme économique, en pénurie de nourriture et de médicaments. Mais le président trouve le temps de passer des disques de salsa, des musiques entrecoupées de longues, très longues interventions au micro, où il défend sa politique, où il commente les cours du pétrole et rend hommage aussi à ses artistes de salsa préférés.
Et ça, Cyril, c'est un peu l'hymne personnel de Maduro.
Indestructible et indestructible de Ray Barreto, le géant de la salsa new-yorkaise. Un titre flamboyant des années 70, parfait symbole selon Maduro de la résilience de son régime. Mais cette récupération des grands noms de la salsa, eh bien, va faire polémique en Amérique latine et aux USA. Le musicien panaméen Ruben Blades, notamment, est l'un des premiers à monter au créneau, très critique vis-à-vis de celui qu'il appelle le dictateur Maduro. Il ira jusqu'à se clasher publiquement avec lui et ne renoncera jamais à le combattre. La qualité sonore n'est pas formidable, mais on entend un extrait là d'un concert tout récent à Miami, en Floride, où Ruben Blades dit « Saca Maduro, il faut virer Maduro ». Le musicien continue d'utiliser sa renommée internationale pour dénoncer les abus de ce régime et appeler au changement.
Regresa un hombre en silencio, de su trabajo cansado. Su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. No espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina, con la basura ya enfrente y el ruido de la cantina.
Pablo Cyril Sauvageau, merci beaucoup Cyril, à la semaine prochaine.